Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Junier Jean-Pierre. Aider qu'une seule façon. Patrice était triste, triste. Mon cher confrère, c'est bien joli tout ça, hein? Vous soignez les malades gratis, vous les aidez pécuniairement, vous ne regardez pas la dépense des traitements. Oui, mais et la profession dans tout ça? Vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous faites tort à vos confrères, qui eux font de la médecine pour gagner leur vie. Et oui, la médecine, c'est un métier comme un autre. Et tous ces traitements qui coûtent cher à la sécurité sociale. Non, cela ne peut plus durer. Ou vous entrez dans le jeu, ou vous faites en sorte, ou on fait en sorte de vous sortir, de vous rayer de l'ordre des médecins. Et mes malades, qui n'ont pas les moyens de se payer un traitement convenable. Tant pis, les affaires sont les affaires. Patrice se sentait là, très là. Alors, docteur. Oui, il est mort, vous qui m'aviez dit qu'il fallait croire en la médecine. Madame, elle fit un geste de recul, son visage était en larmes. Je vous en prie, madame, j'ai tout fait, mais votre fils était perdu. Elle fit non de la tête. Mais vous le saviez qu'il était perdu? Alors pourquoi m'avoir donné et de l'espoir. S'approcha d'elle. Elle recula. Il faut toujours croire et avoir confiance au début d'un traitement. En quoi, mon Dieu, à la médecine? Pourquoi? C'est ainsi. Mais il le faut toujours garder la foi en la médecine, même si elle ne peut rien.
Rien? Vous allez être bonne, vous.
Et en croyant à la médecine? C'est en croyant la médecine que l'on guérit. Regardez-vous, pauvre petit médecin orgueilleux. Vous n'êtes même pas un homme. Car pour être un homme, il faut perdre toutes ses illusions. Vous n'êtes qu'un enfant qui croyait à des formules. Et c'est avec ça que vous vouliez guérir les gens qui souffrent, pauvres gosses. Vous donnez des illusions aux gens. Vous leur faites croire à des choses. En réalité, vous n'avez aucun pouvoir. Ce que vous faites, c'est comme si vous donniez à un aveugle du coin 10 francs en lui disant que ça lui donnera la vue. Vous n'êtes qu'un pauvre type. Et mon enfant, mon pauvre enfant, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Vous avez suffisamment fait de peine comme ça. Allez-vous-en. Patrice se sentit de plus en plus las et triste. Il avait la tête qui bouillonnait. 10 francs pour un aveugle. Pauvre type, pauvre type, pauvre type. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Illusion, illusion. Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Métier, métier. Non, mourir, mourir, pauvre type. Allez-vous-en, allez-vous-en. Patrice se sentait mal. Il avait la tête qui tournait, tournait. Il marchait. Devant lui, sans rien voir ni entendre, la tête qui tournait, tournait. Illusion, illusion, pauvre type, allez-vous-en. La tête qui tournait, qui tournait, qui tournait. Martin allait ouvrir.
Madame, madame, venez vite.
Que se passe-t-il, Martin?
C'est monsieur Patrick, madame. Venez vite, il s'est évanoui. J'ai ouvert la porte.
Monsieur Patrice?
Il est tombé, sans connaissance, dans mes bras.
Oh mon Dieu, Patrice, mon petit Patrice, qu'y a-t-il, mon chéri?
Martin tenait Patrice dans ses bras. Hélène prit la tête de Patrice dans ses mains.
Qu'es-tu, mon chéri? Parle, je t'en supplie. À l'aide, à l'aide! Venez vite! Alexandre, Achille, Eric, venez vite! Patrice est malade. Mon chéri, mon beau chéri, à l'aide, venez vite! Patrice est sans connaissance.
Les autres vinrent. Ils aidèrent à porter Patrice dans sa chambre.
Il faut appeler un médecin tout de suite.
Hélène, détends-toi. Je m'occupe de tout. Et Eric partit téléphoner pour un médecin. Flore arriva, inquiète et surprise. Que sa maladie était provoquée par une grande faiblesse. Et que Patrice avait besoin de beaucoup de repos. Flore s'installa chez Hélène en attendant que son mari guérisse et s'adapta fort bien à sa nouvelle vie. Les jours, les mois passaient. L'état de Patrice ne changeait toujours pas. Convoqua encore plusieurs médecins, ne comprenant rien à son mal. Ce qui troublait le plus Hélène, c'est que Patrice ne parlait toujours pas. Et pas les médecins non plus ne comprenaient pas pourquoi Patrice ne parlait pas. Il refusait de sortir de son lit et voulait les volets fermés de sa chambre. Il ne mangeait presque pas. Sa vie était devenue une vie végétative comme celle du plante. Son visage était d'un blanc laiteux. Il avait beaucoup maigri. Ses traits s'étaient affinés. Il était plus beau qu'avant sa maladie. Sa vie inactive était cependant troublée par quelques crises, des douleurs sur tout son corps. Hélène s'était rendue compte d'une chose, c'est que chaque fois que la famille parlait de malheur, de drame, de peine, Patrice semblait les écouter et se mettait à souffrir comme si ses drames, ses malheurs lui étaient arrivés ou qu'il les prenait tous à son compte. Hélène pensait que son fils était comme le Christ prenant sur lui toutes les peines du monde. Alexandre vint prendre sa place pour le thé, tout excité.
Bien, c'est la guerre.
Comment la guerre?
Oui, Hélène. C'est la guerre.
Mais...
nous déclarons la guerre à la Bolchevie, mobilisation générale, et tout.
Mais qu'allons-nous devenir ? Demandait Eric. La famille était stupéfaite. Hélène se remit de sa surprise et dit :
mais non, nous ne craignons rien. Nous sommes loin de la ville, tout est calme, tranquille. Et puis cette guerre ne durera pas. Vous pensez, nous avons la bombe. Tout se passera bien. Rien ne nous empêche de continuer à vivre comme nous le faisons.
Entendu de grands gémissements. Et sorti de la pièce précipitamment.
Vous croyez que nous, ce sera une guerre éclair ?
Oui, je le crois, Eric.
Flore prit un gâteau et dit : surtout, ne sortons pas. Restons bien sagement ici, calfeutrés.
Oui, c'est ce qu'il faut faire. Cet après-midi, j'irai au village faire des provisions.
Avec toi, dit Flore. Oui, nous organiserons une petite vie bien repliée sur nous-mêmes, disait Alexandre, satisfait. Toute la famille était assemblée pour le thé. Ils étaient fort excités. Chacun racontait ce qu'ils avaient fait. Achille et Flore avaient été acheter du thé, des gâteaux et du sucre. Eric avait fait provision de livres. Alexandre avait acheté des pièces détachées pour ses pendules. Hélène avait fait les magasins. Était revenue pleine de chaussettes, pulls, fourrures et parfums. En l'occasion de la guerre, on avait sorti un nouveau parfum, Chanel tranché, au goût âpre. Paré. J'ai écrit à tous nos amis que nous ne recevrons pas tant que la paix ne serait pas signée.
J'ai bien fait, Hélène. Restons entre nous, dit Eric. On ne sait jamais. On peut recevoir des collaborateurs espions. Tout cela est dangereux. On sonna à la porte. Tous se turent. Martin alla ouvrir. Puis, il revint. Il avait un papier.
Madame, c'est un gendarme. Un gendarme qui apporte ceci pour Monsieur Achille.
Achille rougit.
Tenez, Martin.
Achille lut le papier.
Mère, je suis mobilisé. Silence total pendant quelques secondes.
Fils, je suis mobilisé. Ce n'est pas possible.
Si, mère, ce n'est pas vrai.
Mais qu'avons-nous fait? Pourquoi?
Il y a une erreur.
Non, mère.
Mon Dieu, je me plaindrai au ministre.
Mais cela ne servirait à rien, mère.
Fils, mon pauvre fils. Pourquoi, toi ? je refuse. Nous ne sommes pas de leur monde. Nous n'avons pas à obéir.
Calmez-vous, Hélène. On ne peut un peu de bon sang-froid, de sang-froid. Nous sommes sur Terre, malheureusement. Et la Terre est en guerre. On a beau faire, le monde est autour de nous. Il est impossible de vivre dans et en dehors du monde. On aura beau faire, se cacher, le monde nous retrouvera toujours.
Oui, Eric, dit Hélène, mais je ne peux pas supporter le monde.
Pourquoi ne nous laisse-t-il pas en paix? Le monde et le malheur est rentré chez nous. C'est la fin. C'est notre fin.
Tous restaient silencieux. Fleur aurait aimé prendre la main d'Achille. Alexandre se rappelait Achille enfant sur ses genoux. Hélène entendit des gémissements. Elle se leva et dit
« Achille, viens avec moi, tu lui diras au revoir. »
Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, Hélène et Achille s'approchèrent du lit. Gémissait toujours. Achille se pencha et lui donna un baiser sur le front. Patrice s'arrête de gémir. Je suis venu te dire adieu. Je vais partir à la guerre. Patrice lui prit le bras et le serra très fort. De larmes coulèrent sur ses joues. Ils restèrent tous les trois silencieux de longues minutes sans parler. Lorsqu'ils retournèrent au salon, ils les retrouvèrent silencieux à la même place. On sonna à la porte d'entrée. Personne n'y fit attention, sauf Martin qui alla ouvrir.
Madame, messieurs, c'est Monsieur Charles de Hautebeur.
Que j'ai écrit cette histoire, ma mère, c'était pendant une période où ma mère était malade. D'ailleurs, elle en est morte et s'est suicidée à cause d'une politique idiote de politiciens ridicules et de médecins prétentieux qui lui ont supprimé des médicaments pour faire des économies pour la sécurité sociale. Les médicaments qu'elle prenait depuis plus de 25 ans. Ça l'a tuée. J'ai écrit cette histoire le 5-9-1982 et j'ai terminé le 9-1-1983. 19 demi-journées, 76 heures, 252 pages. À cette époque-là, c'était pas prévu pour faire une émission de radio. Mais j'en ai tout de même fait une émission de cette histoire il y a déjà quelques années. Mais pour des raisons techniques, j'étais obligé c'est de re-enregistrer cette histoire, de reprendre mes écrits, de refaire l'histoire. Je suis pas tellement satisfait de ce que je viens de faire. Je me mets un peu triste, je m'attendais à mieux. Peut-être est-ce que je la reprendrai une autre fois, je ne sais pas. Certainement que les souvenirs... Cette histoire m'a rappelé tellement de souvenirs que... J'ai eu des difficultés à enregistrer tout ça. C'était triste, très triste. On ne revient jamais, on ne peut jamais refaire revivre les choses, si peut-être, grâce à l'art, mais c'est très difficile. Moi c'est un peu compliqué, parce que en plus d'écrire mes histoires, il faut que je les vive pour les mettre en ondes. De refaire, redire des choses qui sont des souvenirs qui vous font mal, c'est pas facile. J'ai enregistré cette nouvelle émission, cette nouvelle série d'émissions en juillet 2000
alors que mon frère, âgé d'une quarantaine d'années, est en train de mourir d'un cancer au cerveau. Il n'y a plus rien à faire. Les médecins ont abandonné de le soigner. Les personnages de cette histoire me font penser un peu à ma famille. Je dis bien un peu. Lorsque j'ai commencé l'histoire, j'ai fouillé un petit peu dans mes affaires pour rechercher d'anciennes cassettes, des choses, tout ça, pour faire des bruits. Et je suis tombé sur un vieux réveil. Ça faisait plus de 10 ans, peut-être 15 ans, qu'il ne marchait plus, j'avais à garder comme ça. Je le pris dans ma main et il s'est mis à remarcher. Alors je l'ai laissé sur la table où j'ai travaillé là pour faire mes enregistrements. Il a continué à marcher, il continue encore à marcher. Le temps passe. Et le son, le bruit du réveil me fait revenir en arrière et me renvoie à mes histoires. N'oubliez pas, c'est que c'était la deuxième époque de entre la Lune et moi.
Pas la deuxième, la troisième.
Il y avait une troisième époque, mais la troisième époque, vous ne pourrez pas l'écouter parce que c'est trop politiquement incorrect. Mais je vous ferai l'enregistrement de la quatrième époque, qui sera la troisième pour vous, et du chaos et des larmes. J'ai appelé cette émission Entre la Lune et moi parce que c'est surtout la nuit. La nuit, je n'écris pas, mais c'est la nuit où j'ai des idées pour écrire. Les souvenirs reviennent. Comme ça, surtout dans mes rêves, je revois des choses, des scènes, des images, des paysages, des visages qui n'existent plus, ou qui sont morts, ou qui ont tellement changé que l'on peut dire qu'ils n'existent plus. Tout est éphémère dans cette vie. Tout est éphémère.
Ce que je tenais à dire aussi, c'est que il y a une chose que vous n'avez peut-être pas compris, c'est le bruit des horloges et quand on remonte les horloges. Ceci est pour aller d'une époque à l'autre, du passé au présent, pour faire un pont entre le passé et le présent, parce que l'histoire des illusionnistes est une histoire sur le temps. Je tenais aussi à dire autre chose, c'est que pour des raisons techniques, lorsque Charles descend du train, la scène a été... Enfin, je suis un peu triste parce que la scène dit que Charles descend du train avec dans la tête la 5e symphonie de Tchaïkovski et s'enfonce dans le brouillard. Et là, j'ai pas pu le faire. Vous auriez pu entendre la 5e symphonie de Tchaïkovski et Charles s'enfonçant dans le brouillard. Voilà ce que je voulais dire. quatrième époque d'entre la lune et moi, et du chaos et des larmes. La lune et moi, et des chaos et des larmes.
Patrick est dans sa chambre, sur son lit, une valise ouverte. Il essaie de la remplir de linge. La porte s'ouvre. C'est sa mère. Une grande femme, mince, blonde, dans les 40 ans. Continue à ranger sa valise. Elle s'approche de lui. Il ne lève pas la tête. Juste au moment où il va poser dans la valise une chemise, elle lui prend la main, il soupire.
Pourquoi tu pars ?
Patrick baisse la tête, soupire et dit :
Je ne supporte plus mon père, j'ai envie de le tuer.
C'est pas bien de dire des choses comme ça. Mais c'est normal, tu es en âge. Ou pour avoir ta propre personnalité, il faut que tu cognes sur ton père. À 20 ans, tout le monde le fait. Tout le monde est passé par là. Mais de là à partir et à vouloir la mort de son père, allons, va te réconcilier avec ton père et défais la valise.
Patrick tape des pieds.
Non, mère. Je ne veux pas me réconcilier avec lui. Je le déteste. Déteste. Il passe son temps à s'occuper de ses affaires. Il ne comprend rien à ce que je lui dis. Et nous avons deux caractères complètement différents. Deux hommes dans cette maison, c'est impossible. Nous en contre-déchirons. Je m'aperçois avec horreur, c'est que toi, tu seras au milieu de tout ça. Et que tu seras une victime de tout ça. Non. Il faut que je m'en aille. Que je vive même seul, une vie seule. Elle lui serre plus fortement les mains.
Mais que comptes-tu faire ?
J'ai écrit pour une place de pâtissier à Lyon.
Pourquoi Lyon ?
Parce que là-bas, je ne connais personne.
Tu vas vivre comment ? Tu n'as jamais quitté la famille.
Ne t'inquiète pas, mon employeur me loue une chambre. Et puis j'ai 20 ans.
Promets-moi au moins, si ça ne va pas, de me prévenir.
Il tourne dans tous les sens, de gauche à droite.
Non, jamais.
Sa mère lâche sa main. La valise est prête. Il la ferme. La prend. Elle a les larmes aux yeux.
Tu ne vas pas partir ce soir. Il est trop tard.
Il faut que j'y aille. Je commence à travailler à 5 heures. Je dois coucher là-bas.
Il va vers la porte. Elle le suit. Il se retourne. Il se retourne vers elle, pose la valise, la prend dans ses bras.
Au revoir, mère.
Et l'embrasse. Elle pleure.
Dieu, au revoir à ton père.
Non, mère.
Donne-moi ton adresse.
Je vous écrirai. Il se dégage, prend sa valise et sort.
Thank you.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.